L'Institut Montparnasse, c'est un think and learn tank et une de nos missions est de réfléchir à l'avenir du mutualisme. Nous avons eu l'occasion d'accueillir une grande diversité d'invités sur nos podcasts. Parmi ceux-ci, des mutualistes bien sûr, mais aussi des grands témoins de l'économie sociale et solidaire, des penseurs, des universitaires, des hommes politiques de France et à l'international. L'ESS se veut un terrain d'innovation face aux problématiques sociales, un espace de débat autour des questions de société. Et dans cet engagement, nous allons chercher des acteurs de la société civile, des territoires, mais aussi des professionnels afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. C'est dans ce contexte que je reçois aujourd'hui Séverine Saleil et Marie Farr pour parler de monnaie locale et de SSA. Bonjour Marie, bonjour Séverine.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de vos parcours ?
Alors, je suis Séverine Saleil, je suis maîtresse de conférences en sciences de gestion à l'université Lyon 2, à la chaire ESS et au laboratoire Coactis. Et je m'intéresse depuis une quinzaine d'années au système alimentaire alternatif et aux enjeux de justice alimentaire.
Bonjour, donc je suis Marie Farr, maîtresse de conférences en économie à l'université Lumière Lyon 2, membre du laboratoire Triangle, une unité mixte de recherche et de la chaire ESS également. Mes travaux portent sur les monnaies dites alternatives et la pluralité monétaire à partir d'une approche institutionnaliste et socio-économique. Nous avons commencé à travailler ensemble sur le rôle des associations de monnaie locale dans les expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation dans le cadre d'un projet financé par la chaire ESS de Lyon 2. Et dans ce cadre, nous avons recruté en stagiaire donc Julie Le Calvez. Nous avons étudié 5 expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation qui collaborent avec une monnaie locale sur leur territoire et 2 qui ont envisagé cette collaboration, mais où cette dernière n'a finalement pas abouti. À chaque fois, nous avons interrogé un représentant de l'association de monnaie locale, de la SSA et de la collectivité.
En parlant de transformation du système alimentaire, comment un projet de sécurité sociale de l'alimentation peut-il réellement transformer le système alimentaire actuel et en quoi est-il novateur dans l'accès à l'alimentation ?
Alors, il y a de nombreux constats et travaux de recherche qui pointent la nécessité d'une transformation profonde du système alimentaire. On peut citer, par exemple, les impacts délétères finalement de l'agro-industrie sur l'environnement et la santé et aussi les coûts cachés induits au-delà du financement public déjà massif de cette agro-industrie. On peut citer aussi les limites pointées des systèmes alimentaires alternatifs, les circuits courts, la culture biologique, la culture paysanne, qui finalement restent dans une niche. De même, on peut aussi évoquer les initiatives de l'économie sociale et solidaire pour favoriser l'accès à l'alimentation de qualité qui reste fragmentée, qui peine finalement à faire système. Et jusqu'à présent, les politiques d'accès, elles s'adressent aux plus pauvres. On parle de l'aide alimentaire, de chèques alimentaires, d'épicerie sociale. Elles sont finalement en partie stigmatisantes. Elles ne répondent pas forcément aux besoins des populations visées. Et surtout, elles constituent des débouchés pour l'agro-industrie via la défiscalisation des dons, des GMS, via les surplus agricoles qui sont écoulés via l'aide alimentaire. Et elles ne permettent pas vraiment d'agir sur une transformation de l'offre. Finalement, elles sont accusées d'entretenir l'insécurité alimentaire. Tous ces constats, ils arrivent à la même conclusion, c'est qu'il est impossible de transformer finalement l'agriculture sans transformer en profondeur les politiques alimentaires et l'aide alimentaire. Et cette conclusion, dans les années 2010, elle est partagée par une diversité d'acteurs de la société civile, de militants de l'agriculture paysanne, de syndicats. On peut citer par exemple Ingénieurs sans frontières Agrista, les CIVAM, le réseau salarial, la Confédération paysanne et puis de nombreuses associations et aussi des chercheurs. Et tous ces acteurs finalement vont... essayer de s'inspirer de la façon dont, en 1946, une organisation démocratique et universelle dans l'économie de la santé s'est implantée, notamment à partir aussi des travaux de Nicolas Da Silva. Et la proposition qui va être formalisée en 2019 va être d'étendre finalement la sécurité sociale de l'alimentation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sécurité sociale de l'alimentation ? Postulat de départ finalement de ce projet politique, c'est que les coûts, qui sont en partie cachés de la précarité alimentaire et du système agro-industriel, ils seraient finalement plus importants que ceux liés au financement d'une sécurité sociale alimentaire pour tous. Et cette SSA, du coup, de son petit nom, elle s'appuie sur 3 piliers. l'universalité, avec l'idée d'éliminer finalement ces mécanismes d'exclusion, de stigmatisation qu'on peut retrouver dans les dispositifs dédiés aux pauvres. Le financement par cotisation en fonction des revenus plutôt que par redistribution étatique, avec une perspective d'avoir un financement autonome qui permette une pérennisation du dispositif. Et enfin, le conventionnement démocratique avec l'idée d'une reprise en main de la chaîne alimentaire par les citoyens. Et c'est ce qui va notamment permettre aussi le développement d'expérimentations. Hein. Actuellement, effectivement, ce projet se traduit par un certain nombre d'expérimentations qui sont inspirées du projet de la sécurité sociale de l'alimentation. Et alors, en quoi ce projet est innovateur ? La SSA, elle part de la demande pour transformer les filières. Donc pendant longtemps, on a parlé beaucoup de la fourche à l'assiette, mais finalement ici, on est dans un renversement de perspective où on parle de l'assiette à la fourche. On va essayer de doter le frein financier hein, par cette idée d'allocation universelle, mais aussi d'arriver à une conscientisation des enjeux hein, via de l'éducation populaire, un travail des comités citoyens, pour effectivement arriver à faire en sorte que ce soit la demande qui vienne guider la transformation des filières. La démocratie, du coup, et le caractère finalement local hein, du fonctionnement des caisses, ça va être un élément clé pour justement transformer le système alimentaire actuel. Un autre aspect novateur, c'est cette idée de conventionnement. Le conventionnement, ça va permettre d'orienter l'offre par la demande et donc de garantir des débouchés à des producteurs et des distributeurs qui ont des pratiques durables ou qui s'engagent à transformer leurs pratiques. La façon dont ce conventionnement il est pensé, c'est aussi novateur. Il s'agit de comprendre les enjeux, de décider démocratiquement. Tout ceci va être travaillé dans les comités citoyens. Enfin, le projet il est novateur car il vise à sortir une partie de l'alimentation de l'économie de marché et ainsi à réduire les coûts cachés de l'alimentation et notamment les coûts environnementaux et de santé. Et du coup, une sécurité sociale de l'alimentation, ça implique forcément une transformation profonde de la chaîne alimentaire, des institutions, de l'organisation en fait, actuelle du système alimentaire.
Le cœur de votre projet, ce sont les monnaies locales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les monnaies locales, comment elles fonctionnent et pourquoi elles s'intéressent à la SSA ?
Les monnaies locales sont une forme particulière ou un type particulier de monnaie alternative. Elles sont émises par des associations dans des objectifs de transformation socio-économique. Elles sont gagées sur l'euro et supposent en ce sens un mécanisme de conversion. Pour pouvoir utiliser la monnaie locale, il est nécessaire de convertir des euros en monnaie locale, en gonette par exemple, ou encore en pive, en chouette, en sardine par exemple. Une monnaie locale a donc vocation à circuler à l'échelle locale au sein d'un territoire délimité, mais également au sein d'une communauté monétaire constituée de particuliers, de commerces, de professionnels et parfois de collectivités locales. Les membres professionnels qui adhèrent au réseau monétaire s'engagent à respecter des critères sociaux et environnementaux. En ce sens, elles ne ciblent qu'une partie de l'activité économique locale, c'est-à-dire des activités qui sont susceptibles de respecter les valeurs qui sont inscrites dans les chartes ou d'autres documents représentant les valeurs portées par l'association. Ce sont donc des projets éthiques de transition socio-écologique qui visent des objectifs de transformation, d'orientation des pratiques de production et de consommation, et notamment en les orientant vers une économie réelle et une économie de proximité. Ces monnaies locales se sont développées à partir des années 2010. On compte actuellement une soixantaine de monnaies sur le territoire national et elles ont fait l'objet d'un processus d'institutionnalisation progressif avec notamment une introduction d'un article de loi sur les monnaies locales dans le cadre de la loi ESS de 2014. Ce sont donc 7 millions d'équivalents d'unités de monnaie locale en circulation à l'échelle nationale, environ 36 000 particuliers utilisateurs de monnaie locale et environ 10 000 professionnels qui sont adhérents d'une association de monnaie locale. Les mobiles de mise en œuvre de ces monnaies sont principalement articulés autour de trois dimensions. Le premier mobile est un mobile économique territorial où l'économie locale construite par réseau, filière, proximité économique prend le sens d'une économie dite humaine, éthique, mais aussi réelle et de qualité. Le deuxième mobile qui est presque tout aussi important et souligné par les monnaies locales renvoie à la qualité du lien social et à l'amélioration des capacités de chacun et du groupe via le déploiement d'actions et de méthodes démocratiques, mais également l'empowerment, la solidarité et finalement une vision d'une société réenchantée. Enfin, le troisième mobile est un mobile ici écologique et environnemental avec l'idée de promotion d'une responsabilité individuelle et collective face aux enjeux et aux défis écologiques et environnementaux. Pour ce qui est de l'intérêt des monnaies locales pour les expérimentations de SSA, en janvier 2021, naît Solidum, un projet qui est inspiré d'une SSA et qui est porté par trois associations, dont notamment l'ADML 63, qui porte la monnaie locale, la Doum, dans le Puy-de-Dôme. Et dans le cadre donc, de cette expérimentation, ils vont créer une sorte de sécurité sociale de l'alimentation. Et c'est le premier projet c'est le premier projet qui articule du coup monnaie locale et SSA. Par la suite, d'autres projets voient le jour, tels qu'à Montpellier avec la graine ou encore à Lyon avec la gonette. Pour les monnaies locales, les expérimentations de SSA sont une façon finalement de donner une certaine forme de pertinence sociale, mais également de redonner du sens aux expérimentations monétaires. En ce sens, elle partage un certain nombre de valeurs communes, notamment dans le domaine de l'alimentation, avec une volonté de rendre visible et de valoriser des productions ou un certain type de producteurs qui vont justement respecter des critères sociaux, des critères environnementaux. Il y a à la fois donc ce partage de valeurs autour de l'alimentation, mais il y a aussi la place de la démocratie dans ces expérimentations. Les monnaies locales cherchent à mettre en place de façon démocratique le projet monétaire, mais aussi le fait de sélectionner les professionnels qui vont être membres du réseau monétaire. Et plus globalement, il semblerait que ces expérimentations de SSA et les monnaies locales ambitionnent une transformation du système économique en l'inscrivant dans une transition socio-écologique. Il y a là une volonté finalement de prendre en compte l'ensemble du circuit économique, la production, la transformation, la distribution et la consommation, en favorisant aussi une meilleure répartition de la valeur au sein de l'économie. Donc ce sont à la fois des valeurs, disons, concrètes dans le domaine alimentaire, mais aussi du point de vue plus global, une inscription dans cette perspective de transition socio-écologique qui constitue finalement des points communs entre SSA et monnaie locale.
On imagine bien que les associations de monnaie locale qui participent à une expérimentation de SSA rencontrent des freins. Est-ce que vous pouvez nous parler des principales difficultés qu'elles rencontrent ?
Alors, dans l'étude qu'on a menée avec Marie et Julie, on a identifié finalement trois grands ensembles de freins à partir des 7 cas qu'on a étudiés. Il y a déjà un premier frein qui peut être tout simplement les discussions tardives, hein, finalement l'absence d'interconnaissance entre ces acteurs-là, hein, associations de monnaie locale et acteurs de la SSA, qui peuvent freiner effectivement l'implication de l'association de monnaie locale dès le départ dans l'expérimentation. Il y a d'autres freins qui sont aussi un peu plus génériques, hein, qu'on retrouve de façon assez classique dans un certain nombre de projets de coopération entre acteurs d'innovation sociale. Il y a déjà un ensemble de freins autour des coûts. Parfois, effectivement, il va y avoir une préférence pour un prestataire technique de chèque alimentaire qui peut être moins coûteux qu'une association de monnaie locale. Pour simplement le transfert monétaire, bien sûr, l'association de monnaie locale, très souvent, va être impliquée dans d'autres actions, hein, autour de l'expérimentation de SSA. Il y a aussi parfois un enjeu d'essayer de diversifier le plus possible les expérimentations de SSA. On veut tester des modèles avec une monnaie locale ou sans. Dans ce cas-là, forcément, ça va être un frein pour l'association de monnaie locale de s'impliquer à partir du moment où la volonté va être d'expérimenter peut-être un autre modèle, puisqu'on est actuellement dans une phase d'expérimentation et que l'idée c'est de pouvoir tirer des enseignements et donc de varier les formats. Il peut y avoir aussi des freins liés à la confiance ou à une confiance insuffisante justement entre ces acteurs, hein, soit parfois des conflits interpersonnels, soit des questions de crédibilité, de solidité financière de l'association de monnaie locale. qui peuvent entraîner des difficultés dans la coopération de ces acteurs. Et enfin, le troisième grand ensemble de freins, c'est des freins qui sont liés à la priorisation de la démocratie alimentaire dans les expérimentations de SSA. Il y a déjà un premier point qui est autour de la question du fléchage. Il va être, dans une expérimentation de SSA, parfois indispensable d'avoir cette idée de sanctuariser un petit peu un budget alimentaire et de s'assurer que l'allocation ne puisse être utilisée que pour acheter des produits alimentaires. Or, dans les monnaies locales peuvent être utilisées pour tout type d'achat. Il existe parfois des solutions techniques pour effectivement permettre l'utilisation de la monnaie locale qui serait issue d'une allocation de SSA que pour des produits alimentaires. Mais effectivement, ça peut quand même constituer un frein, cette volonté de fléchage vers l'alimentation. Deuxième type de frein, c'est le conventionnement. On a parlé, c'est quelque chose de majeur hein, dans l'expérimentation de SSA. Et parfois, il peut y avoir une volonté de repartir de zéro, c'est-à-dire de permettre effectivement au comité citoyen de faire même ses choix de prestataires. Or, il existe bien sûr un réseau hein, qui préexiste au niveau de l'association de monnaie locale. Et du coup, ça peut être identifié finalement comme un frein, cette volonté d'avoir son propre système de conventionnement. Et enfin, la question de l'acculturation. Effectivement, dans les expérimentations de SSA, il y a déjà un travail important autour de la conscientisation des enjeux alimentaires, à la fois auprès des membres du comité citoyen. Il y a aussi des enjeux effectivement de transformation, parfois des pratiques des professionnels qui vont être conventionnés. Et finalement, parfois, ça peut paraître un petit peu trop de également conscientiser autour des questions d'enjeux monétaires qui vont être portés plus par l'association de monnaie locale. Donc cette question-là aussi de la culturation nécessaire à la fois des professionnels des membres du comité citoyen peut être aussi un frein.
Et alors, quelles sont les perspectives d'avenir pour les monnaies locales dans les expérimentations SSA ? Comment renforcer leur pérennité ?
Alors, à partir effectivement des cinq cas d'expérimentation de SSA qui collaborent avec une association de monnaie locale, on s'est intéressé justement au rôle que joue l'association de monnaie locale et on a repéré deux idéotypes, bien sûr à l'intérieur des gradations possibles. Le premier idéal type, c'est l'association de monnaie locale qui est considérée comme un prestataire technique. Dans ces cas, l'association de monnaie locale est conviée à un projet qui est en général déjà en construction. Leur place dans la gouvernance est limitée. Et elles ne sont pas considérées comme des porteurs de ces projets de SSA. Elles sont plutôt mobilisées pour leurs compétences techniques en réponse à un besoin précis, le transfert monétaire. Du coup, l'association de monnaie locale, elle va être en charge des dimensions opérationnelles comme la gestion de comptes bancaires, la mise en place des outils de gestion chez les professionnels, la réception des cotisations, etc. Les associations de monnaie locale, dans cet idéal type, elles n'ont pas l'occasion de présenter leur fonctionnement aux parties prenantes du projet, en particulier aux citoyens. L'allocation, en général, n'est pas versée en monnaie locale, mais en mona. C'est un terme qui désigne la monnaie alimentaire. Le terme de monnaie n'est pas complètement adapté, puisqu'en fait, il s'agit d'un moyen de paiement, en général numérique, qui va être tout de suite converti par le commerçant en euros et donc il ne va pas circuler par la suite. Les associations de monnaie locale, elles peuvent développer un certain nombre d'innovations, notamment techniques, dans cet idéal type-là, mais ça engendre une perte d'identité et de spécificité de l'association de monnaie locale. On ne va pas mobiliser ni son nom, ni son réseau, et parfois même pas ses propres logiciels. Donc il y a finalement dans cet idéal type, on peut parfois douter peut-être de la pérennité possible de la coopération entre l'association de monnaie locale et l'expérimentation de SSA. Le deuxième grand idéal type qu'on a repéré, c'est l'association de monnaie locale considérée comme un réel partenaire. Dans ces cas, l'association de monnaie locale, elle est porteuse du projet dès ses prémices. Elle joue un rôle important dans la gouvernance, dans le développement. Elle organise des comités de pilotage, anime des réseaux, etc. Et elle va conserver vraiment son identité propre. L'allocation perçue mensuellement, elle va être dépensée en monnaie locale. Pour que finalement on donne une place si centrale à l'association de monnaie locale, il faut que les autres porteurs, financeurs et les participants doivent donner finalement leur entière confiance à l'association de monnaie locale. C'est-à-dire qu'ils vont ou lui reconnaître une légitimité à effectuer ses actions. Et notamment, elle va être garante des valeurs portées par le réseau et du processus de sélection des professionnels et de son caractère démocratique. Dans cet idéal type, les associations de monnaie locale ont aussi des actions pour essayer de faire comprendre le fonctionnement de la monnaie aux coporteurs, mais aussi aux participants. Par exemple, pour le projet étudiant à Bordeaux, la GEM va utiliser effectivement des outils d'éducation populaire pour faire comprendre finalement l'intérêt des monnaies locales, animer des espaces d'échange et de prise de décision avec toutes les parties prenantes, y compris les étudiants. On retrouve aussi des actions de facilitation dirigées vers des acteurs non membres du projet. Par exemple, la DOUM va participer à des instances nationales comme le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation. Dans cet idéal type, les associations de monnaie locale peuvent aussi être innovatrices et construire des outils dédiés, par exemple de cotisation, redistribution, en s'appuyant justement sur leurs compétences internes dans le domaine. Pour l'instant, on est à un stade assez précoce, on va dire, de l'observation de ces coopérations entre associations de monnaie locale et expérimentation de SSA. Donc, il est effectivement compliqué d'identifier finalement dans quel idéal type il est préférable d'être ou en tout cas dans lequel finalement les associations de monnaie locale pourraient peut-être apporter le plus. Mais effectivement, c'est vrai que ce deuxième ensemble semble en tout cas donner peut-être des options de pérennisation de la coopération plus importantes et en tout cas s'appuie sur effectivement les expériences antérieures aussi de l'association de monnaie locale et ce qu'elle peut apporter à l'expérimentation de SSA.
On voit que certaines expérimentations de SSA s'appuient sur des monnaies locales et d'autres non. Quelle est la plus-value de la monnaie locale dans une expérimentation de SSA ?
Alors, les plus-values qu'on a pu identifier, c'est déjà l'accélération pour la mise en place. Effectivement, vu que l'association de monnaie locale a déjà un réseau de professionnels, a déjà expérimenté le conventionnement, a des outils d'éducation populaire, etc., c'est déjà animer un réseau, piloter un projet. Ça peut être effectivement des éléments accélérateurs de la mise en place de l'expérimentation. L'autre plus-value cible, c'est d'élargir la conscientisation des comités citoyens aux questions monétaires et donc de les amener à une réflexion peut-être plus systémique sur la restructuration de l'économie. L'autre plus-value importante, c'est la capacité circulatoire de la monnaie locale. Donc, ce support monétaire qui va être utilisé dans l'expérimentation de SSA va permettre de remonter les filières. Ainsi, les monnaies locales, elles vont pouvoir être réemployées dans l'économie locale et générer des effets d'entraînement sur le développement territorial. A contrario, quand finalement on va avoir obligation de reconvertir en euros, comme si on utilise une Mona ou un autre système de chèque numérique ou autre, ça va réduire effectivement son potentiel transformateur. Enfin, une autre plus-value possible, c'est de penser aussi à la complémentarité de ces innovations sociales. C'est-à-dire finalement, l'introduction d'un nouveau moyen de paiement, comme la Mona, peut venir éventuellement aussi concurrencer la monnaie locale préexistante sur le territoire et du coup, avoir aussi des effets de bord négatifs.
Merci pour cette réponse. Alors, dans un contexte de difficulté de financement de la solidarité, comment les monnaies locales peuvent-elles favoriser la réciprocité et la prise en soin de l'autre ? Avez-vous des exemples dans ce domaine ?
Il est possible d'identifier plusieurs niveaux d'intervention des monnaies locales sur cette thématique de la solidarité. Le premier niveau, c'est une solidarité entre les consommateurs et les producteurs, mais aussi entre les producteurs eux-mêmes. Il s'agit dans ce cadre-là de leur donner une certaine forme de visibilité à des producteurs qui s'engagent finalement à respecter des critères sociaux et environnementaux, notamment à travers le rôle des chartes. À un deuxième niveau, c'est également finalement une volonté d'intégrer l'ensemble des acteurs du territoire. Presque toutes les monnaies locales font état de la présence parmi leurs adhérents professionnels de structures qui ont comme raison d'être l'accessibilité à tous et pour tous, telles que notamment des épiceries sociales et solidaires, des ressourceries recycleries, des MJC, des centres sociaux. Enfin, le dernier niveau, c'est finalement des monnaies locales qui vont développer des initiatives spécifiques, qui vont mettre en place des dispositifs spécifiques. Ici, on peut distinguer deux modalités. La première modalité, c'est par des mécanismes de solidarité dits internes. Ici, on peut donner l'exemple notamment du 3% association mis en place par un certain nombre de monnaies locales, dont le Schco au Pays Basque, qui vise à utiliser finalement les ressources issues de la taxe à la reconversion pour financer des associations du territoire qui sont parrainées par des utilisateurs de la monnaie locale. On peut également donner l'exemple du Sol Violette, qui distribue des bons alimentaires à des publics précaires, notamment à travers des maisons de chômeurs et des épiceries sociales et solidaires, dans le cadre d'un partenariat noué donc avec ces organisations sur la base du budget propre de l'association. L'autre mécanisme, c'est via des partenariats avec des acteurs publics. En ce sens, certains acteurs publics vont financer notamment des bonifications de change ou des bonus à la conversion. Par exemple, le Grand Avignon a financé un bonus à la conversion pour la roue où il était possible d'échanger 20 euros et d'obtenir 25 roues. Et les 5 euros, en tout cas la différence, était financée donc par le Grand Avignon. On retrouve le même type de dispositif mis en place pour la Doum ou encore pour la Bulle à Angoulême.
Dans quelle mesure les monnaies locales peuvent-elles contribuer à lutter contre la spéculation et promouvoir une économie locale plus juste face à une économie globale qui peine à fonctionner ?
De façon synthétique, on peut donner deux orientations pour cette contribution finalement à la lutte contre la spéculation et à cette volonté de promotion d'une économie locale plus juste. Le premier point, c'est une volonté de favoriser une économie dite réelle, de proximité, en fléchant la production, la consommation, en fléchant l'acte de consommation vers des professionnels des commerces qui vont respecter des critères sociaux et environnementaux, avec une dimension collective qui est finalement de favoriser une forme de développement territorial que l'on pourrait qualifier de durable, de responsable, qui s'inscrit dans la transition et qui cherche aussi à favoriser des formes de résilience territoriale. La deuxième modalité, c'est l'aspect fonds de réserve. Les monnaies locales sont des monnaies qui sont gagées sur l'euro. Ça signifie que pour pouvoir obtenir de la monnaie locale, il faut convertir d'abord des euros pour obtenir ensuite des unités de monnaie locale qui sont utilisables donc au sein d'un réseau de professionnels. Les euros qui ont été convertis sont, eux, placés dans un fonds de réserve. Ce fonds de réserve est généralement placé dans une banque partenaire, majoritairement la NEF, puisque 83,7% des monnaies locales placent leur fonds de réserve à la NEF. Et ce fonds de réserve peut être ensuite mobilisé par les banques, en l'occurrence principalement par la NEF, pour pouvoir financer des projets qui vont, eux, s'inscrire dans des dimensions sociales, culturelles ou encore écologiques. Donc, en ce sens, il s'agit de substituer donc l'euro par une autre unité de compte qui, elle, va circuler au sein de l'économie locale. Et la réserve, la contrepartie, va-t-elle servir au financement d'activités qui sont considérées comme étant non spéculatives ?
Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu des mutuelles. Et justement, le modèle mutualiste, on sait qu'il est un levier important pour faciliter les transitions sociales. Selon vous, comment pourrait-il favoriser la SSA ?
Alors effectivement, c'est un sujet d'intérêt actuel important des mutuelles hein, qui réfléchissent à cette question, des chercheurs également qui produisent un certain nombre d'études. Il y a plusieurs pistes qui sont a priori envisagées. Il y a déjà une piste autour de la sensibilisation. Effectivement, les mutuelles peuvent mener des études, des recherches, des actions de sensibilisation pour bien faire comprendre le rôle de l'alimentation comme déterminant de santé. Et il y a plusieurs actions dans ce sens qui sont d'ores et déjà menées. Un autre axe de travail pourrait être pour les mutuelles de créer des conditions, apporter leur soutien pour que finalement des adhérents volontaires puissent s'impliquer dans des expérimentations de SSA et pourquoi pas rejoindre par exemple des comités citoyens. Également, on pourrait envisager une évolution du modèle de cotisation avec pourquoi pas insérer effectivement dans les cotisations ou les offres de prestations des avantages finalement pour les adhérents qui s'engageraient dans des expérimentations de SSA ou d'autres formes peut-être d'expérimentation vers des transitions. Également, il y a un enjeu important de lobbying et d'évolution finalement du modèle économique de la santé pour effectivement davantage intégrer dans le système de rémunération les actes de prévention comme peuvent être effectivement l'action autour d'expérimentation de SSA ou d'accompagnement vers des modes de consommation, d'alimentation plus sains. C'est aussi une occasion, la SSA, pour remettre en avant le modèle spécifique de cotisation des mutuelles en fonction des revenus et davantage communiquer sur leurs différences. Enfin, c'est aussi une occasion pour recréer des nouveaux liens de proximité ou réactiver des liens de proximité avec des acteurs de l'ESS, notamment des acteurs autour de l'alimentation, de l'accès à l'alimentation. Évidemment, il y a un enjeu aussi autour du financement des expérimentations pour pouvoir développer ces innovations sociales et pouvoir justement tirer des enseignements de ces expérimentations.
Merci beaucoup pour la richesse de vos réponses. Alors, j'ai une dernière question pour vous, un livre, un film, un podcast. Auriez-vous une recommandation pour nos auditeurs pour bâtir un futur solidaire ou un guide pour s'aventurer vers l'avenir ?
Les carnets de la chaire ESS de Lyon 2 et notamment celui sur les monnaies locales associatives en France, quel bilan après une dizaine d'années de développement ?
Et la conférence gesticulée de Mathieu Dalmé, de la fourche à la fourchette, non l'inverse. Bien sûr, c'est mieux de la voir en live, mais il y a aussi plusieurs rediffusions de cette conférence gesticulée qui sont disponibles sur Internet.
Séverine, Marie, merci beaucoup pour vos réponses. Nous espérons que cette discussion a été enrichissante pour nos auditeurs. Restez à l'écoute pour les futurs épisodes sur des sujets passionnants.